Il est 8h, bienvenue sur France Inter. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce regain de tension en Catalogne, à la veille d'un référendum d'autodétermination interdit par les autorités espagnoles. Depuis hier soir, les partisans de l'indépendance occupent une dizaine d'écoles censées servir de bureaux de vote. Nous rejoindrons dans un instant notre envoyé spécial à Barcelone, Bertrand Galichi. Dans l'actualité également, la fête de la Violette pour le Parti Les Républicains dans le Loir-et-Cher et la probabilité que le syndicat Force Ouvrière rejoigne la journée de mobilisation du 10 octobre. À suivre, le démantèlement dans le nord d'un gang de jeunes hommes jackers et la vogue du camping-car en exposition dès ce matin au Bourget. Côté sport, un titre de champion du monde pour le canoë biplace à Pau, le match nul un partout pour Monaco-Montpellier hier soir et la sixième journée de Top 14 aujourd'hui en rugby. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard.
France Inter.
Le bras de fer se durcit donc en Catalogne à la veille du possible référendum d'autodétermination sur l'avenir de la région. Bras de fer entre les pro-indépendantistes prêts à tout mettre en œuvre pour que cette consultation non constitutionnelle ait lieu et le pouvoir de Madrid bien décidé, lui, à tout faire pour l'en empêcher. C'est ainsi que depuis hier soir, des dizaines d'écoles de Catalogne, des écoles censées servir demain de bureau de vote, sont occupées par des militants ou des sympathisants indépendantistes qui ont préféré prendre les devants et essayer d'empêcher ainsi la police de poser des scellés sur ces locaux. Parmi eux, un retraité que Bertrand Galichi a rencontré dans un quartier nord de Barcelone.
Nous vivons un moment historique à notre pays. Nous devons être ici pour éviter que la Guardia Civil puisse fermer cette école. Notre devoir dans ce moment, c'est de faire le référendum. Surtout pour nos fils et petits-fils. J'habite très près d'ici. Je suis à la retraite. J'ai du temps.
Le gouvernement catalan dit aujourd'hui le référendum va avoir lieu. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça va se passer facilement malgré l'interdiction faite par le gouvernement de Madrid?
Je crois qu'il y aura des votes dans plusieurs sites, mais pas en tous. Et conséquemment, on ne pourra pas faire les racontes des votes.
Alors Bertrand Galichi, vous êtes notre envoyé spécial en Catalogne. Vous vous trouvez en ce moment même à Barcelone. Alors dans quel état d'esprit sont les gens que vous rencontrez dans la rue? Avez-vous le sentiment que les partisans de ce référendum iront jusqu'au bout, voire jusqu'à l'affrontement? Et que disent ou pensent tous ceux qui sont contre cette indépendance, Bertrand?
Eh bien, de chaque côté, la détermination est forte, mais l'état d'esprit très différent. Dans le camp indépendantiste, on sent ces dernières heures l'enthousiasme d'un grand mouvement, comme si un sentiment de vivre collectivement un moment historique. Les séparatistes sont portés par l'ambiance, les manifestations, les banderoles, les drapeaux catalans omniprésents. Chez ceux qui veulent continuer à appartenir à l'Espagne, on est en revanche sur la défensive, comme si les indépendantistes se sentaient isolés dans leur propre pays, avec la peur d'être abandonnés par le pouvoir central. Une situation d'autant plus mal vécue que les adversaires de l'indépendance sont pour l'instant quasi inaudibles, peu organisés et surtout pas du tout soutenus politiquement. Les partis opposés au référendum ont en effet choisi de faire comme si cette consultation jugée illégale n'existait pas, et c'est peut-être une erreur stratégique. À 24 heures du référendum, chacun va maintenant tenter de pousser l'adversaire à la faute. Si un camp ou l'autre dérape dans la violence ici, il aura sans doute perdu.
Bertrand Galichi avec les moyens techniques de Marc Garvenès en direct de Barcelone.
Retour en France, Serge, avec la fête de la Violette. C'est aujourd'hui à Souvigny en Sologne, c'est dans le Loir-et-Cher.
Oui, cette fête dont c'est aujourd'hui la quatrième édition est devenue un rendez-vous incontournable de la droite et en l'occurrence du parti Les Républicains. Rassemblé autour de son organisateur, le député Guillaume Pelletier, un millier de militants s'apprêtent à réserver un accueil chaleureux à Laurent Wauquiez, invité d'honneur cette année et surtout Estelle Schmitt, grand favori pour la présidence du parti.
Ce sera sans doute l'une des images politiques du jour. Guillaume Pelletier aux côtés de Laurent Wauquiez dans une ferme. Le député du Loir-et-Cher devrait officialiser tout à l'heure son soutien. Un soutien loin d'être anodin car Guillaume Pelletier, 41 ans, est l'un des fondateurs du mouvement sarkozyste La Droite Forte, devenu récemment Les Populaires. Selon lui, la droite s'est embourgeoisée et ne s'adresse pas assez aux classes moyennes, fonctionnaires, ouvriers ou agriculteurs. Idée partagée par Laurent Wauquiez qui souhaite incarner cette droite populaire et rurale. Le candidat candidat à la présidence du parti devrait donc confier à Guillaume Pelletier un rôle important dans sa campagne. Et en mettant en scène ce soutien, il veut également prouver qu'il peut rassembler sa famille politique. Après le ralliement de la jupéiste Virginie Calmels, de Damien Abad, venu du centre droit, en Sologne aujourd'hui, un ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, invité d'honneur de la dernière fête de la Violette il y a 2 ans, il y avait prononcé un discours identitaire et d'autorité qui est aujourd'hui celui de Laurent Wauquiez.
Élection du président du parti Les Républicains prévue pour les 10 et 17 décembre prochains. Politique toujours avec l'Université du Modem, tout ce week-end à Guidel dans le Morbihan. Et pour en parler, le chef du groupe Modem à l'Assemblée, Marc Fesneau, sera à 8h20 votre invité, Éric Delvaux.
Oui, vos questions aussi à Marc Fesneau au 01 45 24 7000.
Et puis un mot encore pour vous dire que le syndicat Force Ouvrière pourrait se joindre le 10 octobre prochain à la journée de mobilisation contre la réforme du travail. C'est son secrétaire général, Jean-Claude Mailly, qui l'a annoncé hier chez nos confrères de France Info. Jean-Claude Mailly, qui a par ailleurs démenti le fait d'envisager de quitter la tête de son syndicat.
Les habitants du nord de la France vont peut-être pouvoir respirer ou en tout cas dormir tranquille puisque la police vient de démanteler un gang de homejackers.
Depuis le début de l'année, Lille et sa région vivaient à l'heure du homejacking. Autrement dit, des attaques à domicile en pleine nuit, attaques quasi quotidiennes. Un processus angoissant auquel la police vient peut-être de mettre un terme en procédant cette semaine au démantèlement d'un gang originaire de Roubaix. Un gang de 10 malfaiteurs âgés de 17 à 25 ans qui ont tous été déférés hier soir devant un juge. Les précisions d'Emmanuel Leclerc.
C'est l'un des enquêteurs lillois qui le raconte. Le homejacking, c'est le grand coup de pied à 3h du matin dans la porte d'entrée d'un pavillon. Après, c'est la femme en chemise de nuit qui a le couteau sous la gorge et le mari qui se fait gazer pour donner les clés de la voiture. Sans parler des coups, si vous aviez le malheur de résister. À Lille, Roubaix, Tourcoing et les communes voisines au début de l'année, c'était presque un braquage à domicile chaque nuit. C'est la commissaire Magali Kayat qui a supervisé les 2 groupes d'enquête de la PJ et de la Sûreté départementale qui ont fini par démanteler un véritable gang très structuré, plus d'une dizaine de membres, braqueurs, trafiquants de papier et revendeurs de voitures sur la toile, tous très jeunes.
Les équipes de voleurs sont souvent des équipes à tiroir, c'est-à-dire qu'un trio va voler une nuit et le lendemain, ça sera un autre trio qui ne sera pas composé de la même manière. Des profils très jeunes qui n'hésitent pas à se livrer à ces agressions ultra-violentes qui ont une méconnaissance totale des risques en bout de course que ça va comporter en termes pénals et qui sont d'une inconscience évidemment manifeste.
On devrait vite savoir si ces braqueurs étaient les seuls dans la région à sévir ces derniers temps, ce dont doutent très sérieusement les enquêteurs.
Une tendance, Serge, maintenant pour refermer ce journal, c'est la tendance de la maison roulante, on appelle ça aussi le camping-car.
C'est en effet ce matin que s'ouvre au Bourget le 52e salon du véhicule de loisirs, l'occasion de découvrir les dernières nouveautés en matière de camping-car, donc de mobil-home, de caravane ou bien encore de remorque. Le camping-car semble-t-il très en vogue, surtout chez les retraités, plus de 20 000 de ces véhicules ont ainsi été immatriculés depuis le début de l'année. Des véhicules pas donnés, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Guillaume Dreschler.
Qu'ils soient intégral, profilé ou capucine, les camping-cars attirent toujours autant les Français. Bertrand, lui, rêve de ce modèle.
L'avant, c'est comme une fourgonnette, avec 2 portières, etc. Sur le côté, il y a la porte d'entrée normale, mais à l'arrière, il y a un haillon qui se lève et qui vous ouvre complètement et qui permet, en s'asseyant au bord, d'admirer le paysage.
Malheureusement pour lui, le camping-car de ses rêves coûte trop cher, 60 000 euros. Il a donc déposé une annonce sur Internet pour acheter le véhicule en copropriété.
Alors il faut évidemment trouver un ou deux partenaires avec lesquels on s'entend bien et se le donner 4 mois de l'année chacun, dont un mois d'été chacun. Et maintenant, on peut même le louer à des particuliers avec les systèmes Internet d'économie collaborative. Donc on peut même récupérer une partie de son investissement et on peut faire, comme beaucoup le font, le revendre au bout de 3-4 ans.
L'économie collaborative permet désormais d'acheter des véhicules auparavant inaccessibles financièrement. Une nouveauté bienvenue pour François Feuillet. Il est le président du Salon des véhicules de loisirs.
On va faire découvrir le monde du camping-car, populariser le camping-car à des gens pour lesquels ça ne serait pas du tout justifiable. L'économie collaborative, elle a une fonction éducation et elle a une fonction de complément à la possession.
En France, une autocaravane neuve s'achète en moyenne aux alentours de 65 000 euros. Les modèles les plus chers coûtent jusqu'à plus d'1 million d'euros.
Le salon du camping-car, de la caravane et du mobil-home de Paris, c'est au parc des expositions du Bourget jusqu'à dimanche prochain, dimanche 8 octobre. Cette vogue des maisons roulantes, c'est aussi un dossier à retrouver dès 9h sur notre site internet franceinter.fr, un dossier que vous n'allez pas manquer d'aller consulter en vue de vos prochaines vacances, Éric Delvaux.
Oui, le véhicule de loisirs, pourquoi pas, effectivement. Merci Serge Martin.